Chapitre 12. La rue Jules Verne était un boulevard circulaire qui ceinturait le diamètre central du fuseau, tandis que Desiderata courait sur toute sa longueur, butant à chaque extrémité sur les supports des pompes à Photon, Lado à Caissonne. Si au départ de Desiderata, vous tourniez sur la droite dans la rue Jules Verne et que vous la suiviez assez loin, vous vous retrouviez bientôt en train d'aborder Desiderata par la gauche. Thiez regarda le trick de Bruce jusqu'à ce qu'il soit hors de vue, puis il pivota et passa devant un vaste kiosque à journaux brillamment éclairé, avec les couvertures criardes de douzaines de magazines japonais présentant les dernières stars de SimSteam du mois. Directement au-dessus, le long de l'axe, plongé dans la nuit, le ciel holographique scintillait de l'éclat de constellations fantaisistes, suggérant des cartes à jouer, les faces d'un dé, un haut de forme, un verre de martini. Le carrefour Desiderata-Jules Verne formait une manière de ravin avec les balcons en terrasse des habitations troglodytes de zone libre qui s'élevaient progressivement vers les plateaux herbeux d'un nouveau complexe de casino. Kez regarda un micro léger téléguidé viré avec grâce dans un ascendant à la lisière verte d'une masse artificielle éclairée durant quelques secondes par l'éclat de lumière adouci du casino invisible. L'appareil était une espèce de biplan sans pilote, en polymère ultra léger, aux ailes sérigraphiées pour le faire ressembler à un papillon géant. Puis il disparut derrière le rebord du plateau. Kez avait eu le temps d'entrevoir l'éclair d'un néon réfléchi sur du verre, soit des lentilles, soit les tourelles d'un laser. Les aérodynes faisaient partie intégrante du système de sécurité du fuseau, téléguidé depuis quelque ordinateur central. Allumiérante, il poursuivit sa marche, dépassant des bars nommés ILO, The Paradise, Le Monde, Cricketer, chez Shozoku, Smith, L'Alerte. Il choisit L'Alerte parce que c'était le plus petit et le plus bondé. Mais il ne lui fallut que quelques secondes pour se rendre compte qu'il s'agissait d'un coin touriste. Pas de bourdonnement du trafic ici, rien qu'un vernis de tension sexuelle. Il songea brièvement au club anonyme au-dessus de la chambre louée par Molly. Mais l'image des yeux miroirs sur le petit écran l'en dissuada. Que muet d'hiver lui révélait-il à présent? Le plan masse de la villa lumiérante? L'histoire de la dynastie Tessier-Hachepoul? Il commanda une chope de Carlsberg et se trouva une place contre le mur. Il ferma les yeux pour mieux goûter son nœud de rage. Le petit charbon ardent de sa colère. Il était toujours là. D'où était-il venu? Il se rappelait n'avoir ressenti qu'une espèce d'ahurissement après sa mutilation à Memphis. Rien du tout lorsqu'il avait dû tuer pour défendre ses intérêts de trafiquant dans la cité de la nuit. Et juste un malaise flasque, assorti de mépris après la mort de Linda sous le dôme gonflable. Mais aucune colère. Tout petit et très loin, sur l'écran de son esprit, un vague semblant de Dean s'écrasait sur un semblant de mur de bureau dans une explosion de cervelle et de sang. Il sut alors, la rage lui était venue dans la galerie de jeu, lorsque muet d'hiver avait annihilé le spectre SimSteam de Linda Lee, rayant d'un coup la simple promesse animale de nourriture, de chaleur, d'un lieu pour dormir. Mais de cela, il n'en avait pas pris conscience avant son dialogue avec la reconstitution holographique de l'Onizone. C'était une chose bizarre. Il était incapable d'en prendre la mesure. Engourdi, se dit-il. Il était resté engourdi un long moment, des années. Toutes ces nuits là-bas à Ninsei, ces nuits avec Linda, engourdi au lit comme engourdi au centre baigné de sueur froide de chaque deal de drogue. Mais voilà qu'il avait trouvé cette parcelle de chaleur, cette puce de meurtre. La viande, lui disait une partie de lui-même. C'est la viande qui parle, ignore-la. Gangster. Il ouvrit les yeux. Kat se tenait près de lui, en robe droite noire, cheveux encore ébouriffés par sa chevauchée en Honda. Je te croyais rentré, dit-il, et il masqua sa confusion avec une gorgée de Carlsberg. « Je l'ai fait me déposer à cette boutique. Je me suis acheté ça. Elle fit courir sa paume sur le tissu, la courbure de la ceinture pelvienne. Il vit le derme bleu à son poignet. « T'aimes ?»«
Bien sûr !»
Il examina automatiquement les visages autour de lui, avant de reporter sur elle son regard. « À quoi crois-tu jouer, mon chou ?»«
T'aimes bien la bêta qu'on t'a refilée, Lupus ?»
Elle était tout près maintenant, irradiant la chaleur et l'attention, les paupières, deux minces fentes sur d'énormes pupilles, un tendon dans le cou bandé comme une corde d'arc. Elle frémissait sous l'invisible vibration d'une défonce outrescente.
« Tu décolles ?»«
Ouais,
mais la descente est une vraie merde. »«
Alors, c'est que t'as besoin d'autre chose. »«
Et à quoi cela est-il censé mener ?»«
J'ai trouvé une clé, en haut de la colline derrière le paradis, la plus chouette des planques. » Les gens sont descendus bosser en bas du puits ce soir, si tu me suis.
Si je te suis.
Elle lui prit la main entre les siennes. Elle avait les paumes brûlantes et sèches.
T'es un yak, pas vrai, Lupus?
Un soldat Gaijin, pour le compte du Yakuza?
T'as l'œil, toi, hein?
Il retira sa main et se chercha à tâtons une cigarette. Comment ça se fait qu'il te reste encore tous tes doigts, alors?
Je croyais que tu devais t'en trancher un chaque fois que tu merdais.
« Je ne merde jamais. » Il alluma sa cigarette.
« J'ai vu cette fille avec qui tu es, le jour où je t'ai rencontré. Une démarche à la idéo. C'était trop. »
Son sourire était trop large.
« Moi, j'aime ça. Elle aime bien le faire avec les nanas ?»«
M'en a jamais parlé.
Qui est idéo ?»«
Le serviteur de la troisième gène, comme elle dit. Le serviteur de la famille. »
Kaze se força à fixer d'un œil morne la foule dans la salle de l'alerte tout en parlant.
« La trop jeune ?»«
Lady Troigen. Elle est trop, celle-là, super riche. »«
Tu sais que son père possède tout ça ?»«
Ce bar ?»«
Zone libre. »«
Bah merde alors. Sont la classe, tes copines, non ?»
Il haussa un sourcil, lui passa un bras autour de la taille, main posée sur la hanche.
« Et comment ça se fait que tu connaisses ces aristos, Kate ?»
On serait une manière de deb de placard?
Bruce et toi, vous êtes les héritiers secrets de quelques vieux friquets, hein?
Elle étendit les doigts, pétrissant la chair sous la fine étoffe noire. Elle se tortilla contre lui, rigola.
Oh, tu sais, dit-elle, paupières mi-closes, dans ce qui se voulait un air pudique, elle aime les parties.
Bruce et moi, on est dans le circuit.
Elle se fait vraiment chier là-dedans.
Son vieux la laisse bien sortir de temps en temps, pourvu qu'elle trimballe idéo pour la chaperonner.
Là-dedans, c'est où?
Lumiérante, qu'ils appellent ça. Elle m'a raconté, oh, d'accord, c'est chouette, avec tout plein de bassins et de nénuphars. C'est un château, un vrai château, pierre de taille et crépuscule.
Elle se blottit contre lui.
Eh, Lupus, mec, toi, t'as besoin d'un derme, qu'on puisse être ensemble. Elle portait un minuscule sac en cuir au bout d'une fine cordelière passée autour du cou. Sur sa peau au bronzage renforcé, ses ongles ressortaient en rose vif, rongés jusqu'à la cuticule. Elle ouvrit la bourse pour en sortir une ampoule recouverte de papier contenant un derme de couleur bleue. Quelque chose de blanc tomba par terre.
Kaze se pencha pour le ramasser.
Un origami, une grue en papier plié.
« C'est idéo qui me l'a donné, dit-elle.
Il a bien essayé de me montrer comment faire, mais j'y arrive jamais. Le coup sort toujours à l'envers. » Elle fourra de nouveau le pliage en papier dans son sac.
Kaze la regarda déchirer la bulle, détacher un derme de son support pour le lui coller au creux du poignet.
Trois gènes, elle a bien le visage pointu, le nez en bec d'aigle. Il regarda ses mains dessiner à tâtons un contour.
« Brune? Jeune?
Je suppose. Mais elle est du rail, tu sais. Tu comprends avec tout ce fric. »
La drogue le percuta comme un express. Une colonne de lumière chauffée à blanc qui lui remonta à la moelle épinière depuis la région de la prostate, illuminant ses sutures crâniennes des rayons X d'une énergie sexuelle court-circuitée. Ses dents se mirent à chanter dans leurs alvéoles, comme autant de diapasons. Chacune parfaitement accordée et limpide comme l'éthanol. Sous la brumeuse enveloppe de chair, ses os étaient chromés et polis, les articulations lubrifiées d'une fine pellicule de silicone. Des tempêtes de sable faisaient rage sur le plancher décapé de son crâne, générant des ondes de parasites aiguës et fines qui venaient lui éclater derrière les yeux, sphères du plus pur cristal se gonflant. « Allez, viens !» dit-elle en lui prenant la main. « T'es parti, on est parti. Grimpe la colline, on va s'éclater toute la nuit. » La colère grandissait, irrépressible, exponentielle, déboulant derrière la vague de bêta-phénéthylamine comme une onde porteuse, un fluide sismique, épais et corrosif. Son érection était une barre de plomb. Les visages autour d'eux, dans la salle de l'alerte, n'étaient plus que des masques de poupées peintes, taches roses et blanches, des bouches qui s'agitaient, laissant émerger les mots comme de discrètes bulles sonores. Il regarda Kat et discerna chacun des pores de sa peau bronzée, vit ses yeux aussi mats que du verre dépoli, couleur de métal terni, découvrit sur ses traits une vague bouffissure, remarqua les presque imperceptibles asymétries des seins et de la clavicule, une flamme blanche jaillit derrière ses yeux. Il lui lâcha la main et se roua en titubant vers la porte, bousculant quelqu'un au passage. « Va te faire foutre !» hurlait-elle dans son dos, « espèce de saleté d'escroc !» Il n'arrivait plus à sentir ses jambes. Elles étaient devenues pour lui de vraies béquilles. Il titubait de manière inquiétante sur les dalles de la rue Jules Verne, un grondement lointain dans les oreilles, celui de son propre sang. Des voiles de lumière fins comme des rasoirs bisectant son crâne sous une douzaine d'angles différents. Puis il se retrouva figé, raide, les poings serrés contre les cuisses, tête rejetée en arrière, lèvres retroussées, tremblant. Sous ses yeux levés, le zodiaque pour paumer de zone libre, les constellations de boîtes de nuit sur le ciel holographique se modifiaient, dégringolant en glissade fluide, l'axe de ténèbres, pour venir se répandre comme des créatures vivantes au centre même de la réalité, jusqu'à ce qu'elles se soient réarrangées, une à une, puis par centaines, pour former un vaste et simple portrait pointilliste et définitivement monochrome, tapis d'étoiles sur le ciel nocturne, le visage de Miss Linda Lee. Lorsqu'il fut capable, enfin, de détourner le regard, de baisser les yeux, il découvrit tous les autres visages dans la rue, levés vers le ciel. Les touristes en goguette, soudain, figés d'étonnement. Et lorsque les lumières célestes s'éteignirent, un grand cri rauque monta de la rue Jules Verne pour se répercuter sur les terrasses et les balcons étagés de béton lunaire. Quelque part, une horloge se mit à sonner, quelque antique carillon venu d'Europe. Minuit. Il marcha jusqu'au matin. La défonce s'atténuait. Le squelette de chrome se corrodait d'heure en heure. La chair reprenait consistance. Chair de la drogue, remplacée par la chair de sa vie. Il était incapable de penser. Ça lui plaisait bien d'être conscient, mais incapable de penser. Il lui semblait devenir chacun des objets qu'il voyait. Un banc dans un parc, un nuage de moucherons blancs autour d'un antique réverbère, une tondeuse peinte de bandes diagonales noires et jaunes. Une aube enregistrée se glissa le long du système Lado-Aquesson, rose et blafarde. Il se força à manger une omelette dans un café de Desiderata, à boire de l'eau, à fumer la dernière de ses cigarettes. Les prairies du toit de l'intercontinental frémissaient, tandis qu'il les traversait, foule matinale, absorbé dans la consommation de son café croissant sous les parasols rayés. Sa colère était toujours là. C'était comme d'avoir traversé quelques ruelles sombres et de découvrir à la sortie que vous aviez toujours votre portefeuille dans la poche, intact. Il se réchauffa à son contact, toujours incapable de lui donner un nom ou un objet. Il prit l'ascenseur pour redescendre à son niveau, tâtonna dans ses poches pour retrouver la carte mémoire de zone libre qui lui servait de clé. Le sommeil était en train de devenir réel, une possibilité pour lui. S'allonger sur la mousse expansée couleur sable et retrouver le néant. Il l'attendait là, les trois. Impeccable tenue de sport blanche et bronzage au pochoir, éclipsant le chic organique artisanal du mobilier. La fille était assise dans un divan en osier, un pistolet automatique posé à côté d'elle, sur le motif de feuilles imprimées du coussin. « Turing !» annonça-t-elle. « Vous êtes en état d'arrestation. »